Bon, je vais essayer de parler assez fort. Normalement, ça devrait être bon. On est quand même très très heureux d'être ce soir rassemblés et nombreux. Et vraiment que le Seigneur bénisse ces instants. Je pense qu'il y a peut-être quelques sujets qui seraient bons de partager. Oui. Non. Pour dimanche déjà. Voilà. Que le Seigneur bénisse cette belle journée de dimanche.
Ben moi, j'ai ma sœur Isabelle qui commence sa chimio jeudi.
D'accord.
Pour la tumeur du pancréas.
Isabelle, la sœur d'Hélène, commence la chimio après-demain. Donc, c'est aussi un sujet de prière. Et puis que notre Seigneur bénisse ces moments et parle à nos cœurs par sa parole. Est-ce que quelqu'un veut prier pour commencer cette rencontre ?
Amen.
Alors juste très très rapidement pour ceux qui n'étaient pas là mardi dernier, on a commencé une série d'études sur les doctrines de base de la parole de Dieu, toute une série qui va nous amener jusqu'à fin mai pratiquement, et je disais qu'on ne va faire que survoler certains sujets, notamment le mois prochain ça sera Dieu, étudier Dieu c'est étudier l'infini, hein, donc en deux soirs c'est pratiquement mission impossible, et Georges va faire plus qu'un condensé de condensé. Il va falloir faire des choix. Alors, il y a beaucoup de doctrines de base sur lesquelles le monde évangélique est bien entendu en accord. On va aussi aborder d'autres des doctrines avec des compréhensions peut-être un petit peu différentes. Et on le fait vraiment, bon, on expose la compréhension de l'Église, mais on le fait aussi pour vous donner les versets, les passages qui traitent de ces sujets-là, et surtout pas pour imposer un point de vue, mais pour que chacun se fasse son propre point de vue en fouillant dans la parole de Dieu, et puis quitte à discuter, mais toujours dans un esprit de communion, et surtout pas dans un esprit militantisme. Voilà. Alors, la dernière fois, on avait vu une première partie de la révélation, et cette fois-ci, on va voir... Là aussi, il faut faire des choix. Donc, on va voir juste l'inspiration de la parole de Dieu. Et puis, vous avez choisi le canon biblique. Donc, pourquoi on a les livres, 66 livres dans notre Bible, alors que d'autres en ont un nombre un petit peu différent. Et sur quoi se base-t-on ? Voilà, on va essayer de voir ça ce soir. Et puis, bon, j'avais prévu d'autres sujets, mais ça ne sera pas possible. Alors, autre chose aussi, j'ai tenu compte des remarques. Donc, l'écran est mal placé. Il n'est pas au milieu, ça oblige certains à avoir presque un torticolis. Donc j'ai pour ceux qui veulent, là j'ai mis juste les versets bibliques, là la liste des versets bibliques. Voilà, comme ça vous l'aurez. Et puis on verra dans un prochain temps à déplacer l'écran là pour pouvoir quand même utiliser le matériel vidéo. Mais cette fois-ci, on va le faire à l'ancienne. Donc ceux qui veulent, là vous pouvez prendre, je vais en garder un. Vous pouvez prendre le plus en main. Alors, pendant que les photocopies circulent, là, je vous rappelle juste les points que nous avions vus la dernière fois. La révélation, bien entendu, par excellence, c'est Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ est le chemin qui nous mène à Dieu, et qu'il a pu dire, bien, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc la révélation de Dieu passe forcément par Jésus-Christ. Mais on avait vu qu'une révélation est nécessaire, ou sinon on ne peut pas par nous-mêmes nous approcher de Dieu. Je vous cite juste Ésaïe 55, verset 8. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Après, on avait vu que la révélation, en fait, elle est limitée. Elle ne peut être que limitée. En Exode 33, 20, Dieu parle à Moïse et va lui dire « Tu ne peux voir ma face parce qu'on ne peut pas me voir et vivre. » Et puis en Actes chapitre 17, verset 23, il y a ce passage dans lequel on apprend que Dieu a fait en sorte que tous les hommes le cherchent, mais comme en tâtonnant. Donc il va se révéler, mais avec vraiment des limites. Et puis on avait vu qu'il y a plusieurs moyens aussi qui sont autour de nous pour la révélation, notamment la nature. Et Paul dit aux Romains qu'ils sont inexcusables, parce que les perfections de Dieu se voient comme à l'œil nu quand on considère dans son ouvrage, donc dans la nature. Et l'homme est inexcusable. Et puis la conscience aussi est quelque chose qui nous permet également d'avoir une révélation très très succincte et imparfaite de Dieu. Et puis il y a des révélations particulières, notamment les miracles. La parole de Dieu nous montre tellement de miracles, mais quand on observe aussi la réaction, on se rend compte que Jésus va dire, malgré, il est parlé de Jésus en disant, malgré tant de miracles, ils ne croyaient pas en lui. Voilà. Et bien sûr, là on arrive au gros morceau, qui est la révélation par les Écritures. Alors je vous propose de prendre le premier verset. Alors vous avez deux pages, donc prenez la page, la révélation, l'inspiration des Écritures. Bon, sinon vous n'allez pas avoir les bons versets. Je vous propose de prendre dans 2 Pierre au chapitre 1 et nous lirons du verset 16 au verset 21. Là aussi le premier qui trouve, s'il veut bien le lire...
En suivant des faibles habilement conçus, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs.
Voilà.
Jusqu'au 21.
Oui, voilà, oui.
Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu.
Voilà. Alors au départ, il y a ce témoignage de Pierre, et nous avons vu de nos propres yeux. Et ça sera quelque chose d'important aussi, dont nous parlerons un petit peu plus tard. Et puis, ce que je voudrais relever avec vous, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bonjour, je pense qu'il y a des...
Il y a une chaise là.
Ouais. Non ? Voilà, on l'était non. Donc, voilà. Alors, juste là, quand on lit ce texte, on pourrait dire, oui, mais là, il est question des prophéties. Et la prophétie, eh bien, c'est ce qui va se passer plus tard. C'est pour ça que je vous ai mis une petite définition de la prophétie, pour que nous puissions bien comprendre et nous appuyer sur ce texte pour affirmer que la parole de Dieu est inspirée par notre Dieu. La Bible est vraiment parole de Dieu inspirée. La prophétie, c'est quoi ? Un discours émanant de l'inspiration divine et déclarant les desseins de Dieu, soit pour reprendre et admonester le méchant, ou pour réconforter l'affligé et révéler les choses cachées, spécialement par prédiction d'événements futurs. Donc, il y a quand même des points qui sont importants et qui nous montrent que la prophétie, ce n'est absolument pas uniquement ce qui va se passer un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, il y a Jean qui souvent nous cite ce verset de 1 Corinthiens, verset chapitre 14, verset 3. Jean, c'est quoi ? Est-ce que je... Oui, je me le suis marqué, ça va. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc là aussi, ça nous donne une indication de ce qu'est la prophétie. Et on voit déjà dans ce passage que, eh bien, les textes que nous lisons ne sont pas issus de la volonté de l'homme, mais ils viennent au-delà des hommes, ils viennent de Dieu lui-même. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, je vous le lis. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Toute écriture, et juste là, une petite précision, certains d'entre vous, vous avez peut-être des versions qui disent « toute l'écriture », ce qui est beaucoup plus juste. Et d'ailleurs, ce terme-là, partout ailleurs, est traduit par « toute l'écriture ». C'est donc bien le texte complet qui est inspiré par Dieu. Et inspiré de Dieu, voilà, cette théopneuma, pardon, donc le souffle de Dieu. Littéralement, c'est le souffle de Dieu qui a inspiré les auteurs des Écritures. Donc toute Écriture est inspirée de Dieu. Quelqu'un va dire, on est là, quelque part, pour montrer que la parole de Dieu est inspirée, on s'appuie sur des textes de la parole de Dieu. Donc on ne prend pas la chose par le bon bout. Il faudrait au contraire chercher des preuves externes pour démontrer que la parole est vraiment inspirée par Dieu. Et là, il y a quelque chose de très très important que je voudrais encore soulever et qui rejoint ce que nous avions dit la semaine dernière concernant les découvertes scientifiques. On ne peut pas appuyer notre foi sur des découvertes qui confirmeraient la parole de Dieu, parce que les découvertes scientifiques, elles sont changeantes. Ce qui est vrai aujourd'hui, mais peut-être ne le sera plus demain. Notre foi est basée sur ce que Dieu nous dit, et ce que Dieu nous dit, nous le découvrons dans sa parole. Et il en est ainsi pour l'inspiration. Et c'est bien la foi, et c'est donc bien un choix que nous faisons au départ. Je choisis de croire que le texte est inspiré de Dieu. Et je m'approche par la foi de ce texte, et je découvre alors que, eh bien, ce texte devient vivant pour moi, et Dieu me parle, et je comprends les choses. Ou alors je choisis de dire que ce texte n'est pas inspiré par Dieu. Et je vais peut-être l'étudier, mais finalement, à la fin, je ne comprendrai pas grand-chose. Il y a des ouvrages qui sont des ouvrages qui sont tout à fait remarquables, mais qui sont des travaux de personnes qui ne pensent pas que c'est la parole de Dieu. Et finalement, en tant que chrétien, on se rend compte qu'il ne nous apporte pas grand-chose. Mais quand on pense par la foi et on accepte que c'est la parole de Dieu, Dieu se révèle à nous. Et plus on va fouiller les Écritures, plus par la foi, Dieu va se révéler à nous. Et c'est logique, hein, puisque la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est vraiment, au départ, la foi qui nous permet de nous approcher de Dieu, et qui nous permet aussi de dire, oui, ce livre est inspiré. Joël ?
Oui, j'avais une petite question, parce que tu parlais de découvertes scientifiques. Oui, qu'on ne pouvait pas dire justement que l'Écriture était inspirée sur des découvertes scientifiques. Mais je remarque qu'il y a plusieurs degrés de découverte, enfin, dans le sens où quand, par exemple, les prophéties sur le Messie, voilà, des choses qui, par exemple, qui étaient annoncées beaucoup de temps à l'avance et qui finalement se produisent dans la réalité, c'est-à-dire qui peuvent être vérifiables. Disons que ce ne sont pas forcément des théories scientifiques, enfin des découvertes, comme tu disais, qui peut-être sur l'origine de l'univers, des choses comme ça, mais oui. Des choses qui sont directement reliées à la parole.
Là, ça change tout. Effectivement, si c'est relié à la parole de Dieu, là, ça change tout. Mais, par exemple, on donnait comme exemple la semaine dernière cet excellent livre de Bolloré et... merci. Et donc, qui, notamment, démontre que, maintenant qu'on a trouvé que l'univers est en expansion, on sait qu'il a eu un commencement, le Big Bang. Jusqu'il y a quelques décennies, on pensait que l'univers, ou certains scientifiques prétendaient que l'univers était éternel. Donc, s'il a eu un commencement, c'est qu'il aura une fin. Et donc là, on se retrouve en accord avec la parole de Dieu. On pourrait dire, oui, c'est réjouissant. C'est vrai que c'est des choses qui sont intéressantes, mais notre foi, elle se base sur ce que Dieu dit. Et que la découverte ait eu lieu ou pas, ça ne doit rien changer pour nous. Et pour l'inspiration, il en est ainsi aussi. C'est-à-dire que on ne peut pas s'approcher de Dieu autrement que par la foi. Pour plaire à Dieu, il faut croire qu'il existe. Donc il y a un choix au départ. Et ce choix de foi, eh bien, il est valable pour l'ensemble de la révélation et donc aussi l'inspiration des Écritures. C'est vraiment au départ un préalable qui est incontournable. C'est vraiment par la foi qu'on va l'accepter. Et c'est vrai que quand par la foi on accepte que la parole de Dieu est inspirée, que la Bible est vraiment parole de Dieu, eh bien on se rend compte qu'elle devient vivante pour nous. C'est une parole vivante et on se rend compte aussi qu'elle nous transforme. Mais c'est parce qu'au départ il y a eu ce pas de foi. Et automatiquement, elle est notre seule autorité. La parole de Dieu est notre seule autorité et elle seule est notre autorité. Il ne peut pas y avoir la parole de Dieu plus la tradition. C'est pas possible. Ou la parole de Dieu plus un manuel d'interprétation, qu'il soit du juge Rutherford ou de quelconque. Il n'y a pas même la parole de Dieu et nos habitudes. Et là, des fois, c'est beaucoup plus subtil. Et on a vraiment besoin de nous placer devant la parole de Dieu, cette parole inspirée, pour pouvoir progresser, connaître toujours de mieux en mieux notre Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Alors, on entend parfois cette affirmation, la Bible contient la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu, ce qui est vrai. Et à maintes reprises, on va lire « Ainsi parle l'Éternel » et non pas « Ainsi parle... Bonjour !»« Bienvenue !» Non, non, il n'y a pas de souci. « Bienvenue Nathan, on va te trouver une place, oui. »« Ainsi parle l'Éternel » non pas « Ainsi parle Abraham »,« Ainsi parle Isaac », etc. Non, c'est vraiment « Ainsi parle l'Éternel ». Donc, la Bible contient la parole de Dieu. Elle contient aussi la parole des hommes. Et puis certains vont dire qu'elle contient même la parole du diable. Et c'est vrai, en plus. C'est vrai que, par exemple, lorsque le diable se retrouve dans Job, devant l'Éternel, il va lui dire, t'as vu ton serviteur Job, je suis sûr que si tu lui enlèves tout ce qu'il a, il te maudit en face. Et puis il se trompe. Et on sait qu'il se trompe totalement. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que si la Bible contient des paroles de Dieu, elle est entièrement la parole de Dieu. Et par exemple, alors c'est pas dans cette version, j'ai eu une autre Bible où les paroles de Jésus sont en rouge. Et vous voyez, c'est quelque chose que j'apprécie pas tellement. Parce que c'est vrai que les paroles de Jésus, notre doctrine se fonde dessus, mais quelque part ça voudrait dire que, voilà, elles sont particulières, et puis quelque part aussi, les autres ont moins d'importance. Or, si on dit que toute la Bible est parole de Dieu, toute la Bible, du début jusqu'à la fin, est d'égale importance. Et c'est vrai que toute la Bible nous montre Jésus-Christ, mais toutes les paroles de l'Écriture sont d'égale importance. Ça, c'est voilà, quelque chose aussi qui est à préciser. Dire que la Bible, c'est un mélange de paroles de Dieu et de paroles d'hommes, dans ce cas, quelque part, on n'a pas de chance. Parce que comment va-t-on faire pour faire le tri et dire ça c'est la parole divine, inspirée, et puis ça non, on peut le mettre de côté. À la limite, ça va être pour certains peut-être bien pratique, parce que bon là, ça, ça me plaît pas, donc je le mets de côté, et puis ça, ça me convient bien, donc je me le prends. Voilà. Non, toute la Bible est parole de Dieu. Alors, avec la foi et par humilité, on reçoit cette parole qui a été plantée en nous. On voit que donc Dieu a choisi des hommes et ils ont été ses messagers. Il leur a donné son message. Et ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu est unique parce que ce message que Dieu a donné à des hommes, on découvre dans les différents livres de la parole de Dieu leur personnalité. Il n'a pas mis de côté leur personnalité. Mais c'est vraiment à travers eux que notre Dieu nous a parlé. Alors, entre le début de la Bible, dans la Genèse, jusqu'à la fin, c'est environ 16 siècles, c'est ça, 16 siècles, voilà, pour l'écriture de tout le texte. On le sait avec des personnes totalement différentes, des érudits, des gens beaucoup plus simples, simples pêcheurs, des bergers, des rois, des hauts fonctionnaires, etc. Et pourtant, on trouve une unité qui est extraordinaire. On le dit, hein, on l'a dit souvent, mais c'est bien de se le rappeler. Il y a une unité extraordinaire. Alors que, vraiment, une période tellement importante, imaginez, 16 siècles entre le premier, les livres de Moïse et le dernier, donc le livre écrit par Jean. 16 siècles, pourtant une unité extraordinaire. J'avais lu quelque part cette image, alors je vous la donne en la modifiant un petit peu. Si vous allez à Toulouse, vous visitez les hangars où sont fabriqués les Airbus, hein, et puis vous vous rendez compte que ben, tout s'assemble de façon parfaite, et pourtant il y a des pièces qui viennent d'un petit peu partout en Europe. Et elles s'assemblent de manière vraiment extraordinaire au micron près. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autorité supérieure qui a tout géré. Eh bien, la parole de Dieu, on sait que l'autorité, c'est notre Dieu. C'était le Seigneur, et le Seigneur a inspiré les uns et les autres, et nous avons une unité qui est extraordinaire, et qui nous parle à chaque fois que nous méditons la parole de Dieu et que nous le constatons aussi. Alors, je ne sais pas, vous m'arrêtez, quand vous prenez l'exemple sur Joël, pour aussi donner vos points de vue. On sait que c'est vraiment quelque chose qui est important aussi, que vous puissiez aussi, les uns et les autres, vous exprimer. Mais je me tais juste pour voir s'il y a une réflexion. Non ? Je continue. Quelqu'un a dit, alors c'est Richard Hooker, qui était un évêque du XVIe siècle, et qui a dit ceci, je vous le lis, « Les Écritures sont si parfaitement rédigées qu'elles ne contiennent ni un mot en trop, ni un mot en moins, que ces auteurs n'en dirent jamais un de leur propre chef, mais qu'ils ont prononcé syllabe par syllabe ce que l'Esprit mettait dans leur bouche. » Non, pas un seul mot en plus, pas un seul mot en moins. Et Jésus a dit, je vous le dis en vérité, en Matthieu 5, 18, « Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Et on voit malgré tout que les mots ont une grande importance. Je vous ai peut-être marqué Galates 16, je vous donne juste cet exemple. C'est Paul qui parle et qui va dire « Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Et Paul relève qu'il est dit « à sa postérité et non pas à ses postérités comme s'il y en avait plusieurs. » Donc une seule postérité, donc Jésus-Christ. Donc pour montrer que les mots sont vraiment d'une importance, d'une grande importance. Jean chapitre 1. On connaît ce texte, toujours pour montrer l'importance vraiment de chaque mot. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et vous avez Dieu avec un D majuscule. Et la construction grecque nous montre que c'est vraiment, il parle là de l'essence même, de l'essence divine. Donc ça ne peut être que Dieu avec un D majuscule. Et si vous prenez la version du monde nouveau qui est utilisée par les témoins de Jéhovah, vous verrez que au commencement était la parole et la parole était un Dieu. Ou alors Dieu avec un D minuscule. Mais la construction grecque ne le permet pas. Cela, c'est vraiment la parole était Dieu avec un D majuscule. Donc la moindre ponctuation a une grande importance. Et quelque part, certains vont tordre les Écritures en changeant des petites choses comme cela, mais qui changent tout le sens des Écritures. Mais par contre, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on sait très très bien que ces textes, comme donc les textes hébreux pour l'Ancien Testament ou grecs pour le Nouveau, ne perdent absolument pas leur valeur lorsqu'ils sont traduits. Comme ça va être le cas, par exemple, du Coran, en tout cas certains musulmans prônent cela, et puis les hindous aussi avec les Védas également, c'est la même chose. Non, la parole de Dieu, elle ne perd pas sa valeur lorsqu'elle est traduite. En Jean chapitre 6, verset 63, il est dit ceci, « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et parce que c'est une parole vivante, lorsque nous la recevons, lorsque nous l'avons dans notre langue, donc avec une traduction, eh bien, elles sont toujours esprit et vie. Et ce n'est pas leur forme littérale qui va compter, mais c'est vraiment le sens du message qu'elle nous donne, le message vivant qu'elle recèle. Et quand on parle d'inspiration de la parole de Dieu, on a dit qu'on ne pouvait rien ajouter ni rien retrancher au livre. Et l'inspiration s'est arrêtée avec les dernières pages de la Bible. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que le travail de l'Esprit continue en chacun d'entre nous et nous fait découvrir toutes les richesses de la parole de Dieu. Et sans l'éclairage de l'Esprit, on ne comprend rien à la parole de Dieu. C'est vraiment une parole vivante qui crée une vie nouvelle dans celui qui la reçoit. Un livre qui change les vies. Il y a tellement de témoignages qui confirment cela, des vies qui ont été totalement transformées par la parole de Dieu, qui nous révèle aussi Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Je vous l'ai mis. Vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole qui est comparée à une semence incorruptible. Vous avez des graines, vous les laissez quelque temps, si elles prennent un petit peu d'humidité, c'est fini, c'est pas la peine de les semer, ça ne va rien faire. Là, la semence, la parole de Dieu, est incorruptible. C'est quelque chose aussi qui est merveilleux. Est-ce que vous avez quelque chose, des remarques à faire?
Moi, juste pour confirmer ce que tu dis de l'importance de la parole de Dieu, je veux juste prendre aussi l'Apocalypse, chapitre 22, où il est dit, verset 18, « Je le déclare à quiconque a les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de ce qu'il est écrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose de la parole du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, celle décrite dans ce livre. » L'importance de même seul iota, de rien enlever ni rajouter.
C'est normal, si on dit que la parole de Dieu est parfaite, si on touche à ce qui est parfait, forcément, il perd sa perfection. C'est une logique, donc on n'a pas à toucher la parole de Dieu, que les passages nous plaisent ou ne nous plaisent pas de toute façon. Voilà, c'est Dieu, et c'est la pensée de Dieu qui est pour nous. Voilà, alors on n'aura pas le temps malheureusement de voir les traductions, peut-être qu'on pourra juste en parler un petit peu, en tout cas de la fiabilité des traductions. Ça c'est quand même aussi quelque chose qui est encourageant. Je crois qu'on n'aura vraiment pas le temps de rentrer là-dedans, et en plus je crois que je n'ai même pas amené mes notes de toute façon à ce sujet. Quelque chose aussi qui est quand même parlant, c'est que, alors j'ai lu que un petit pourcentage, environ 50%, des livres résistent à une décennie. Un très faible pourcentage résiste à plus d'un siècle. Et alors, pour un millénaire, il y a vraiment un infime pourcentage de livres qui peuvent résister et se retrouver après un ou plusieurs millénaires. Donc, la parole de Dieu en fait partie. Il y en a d'autres. Il y a d'autres livres qui sont très très anciens et que nous avons, mais la parole de Dieu fait partie de cela. Sauf que si on prend même les autres livres, qui sont même certains plus anciens que la parole de Dieu, aucun n'a subi autant d'outrages que la parole de Dieu. Aucun autre livre n'a été autant attaqué que la parole de Dieu. Je vous ai mis déjà en Jérémie, chapitre 36, versets 21 et 23, c'est le roi de Joachim qui demande à ce qu'on lui lise la parole, enfin, le livre, la parole de Dieu. Et puis comme ça ne lui plaît pas, au bout de quelques passages, il prend le canif, il coupe en morceaux le livre et il le jette au feu. C'est déjà l'inquisition avant l'heure. C'est dans Jérémie au chapitre 36, versets 21 et 23. Et puis on sait que même dans notre pays, il y a pas mal de siècles, si on trouvait une Bible, elle était jetée au bûcher, et puis également ceux qui la possédaient étaient jetés avec. Et malheureusement, alors en novembre, on aura sans doute une journée spéciale, comme on a fait déjà les autres années, sur l'Église persécutée, nos sœurs, nos frères qui sont persécutés, et qui aujourd'hui encore partent en prison, partent en camp de travail. Pourquoi? Parce que, simplement, ils ont la parole de Dieu, la Bible, ou même une portion de la Bible qui a été trouvée chez eux. Aucun livre n'a été autant attaqué que la parole de Dieu. Il y a énormément d'énergie qui ont été employées pour cela. Ça, ce sont des attaques de front. Mais il y a aussi des attaques beaucoup plus insidieuses, où, avec soit le biais de la science, ou de l'archéologie, eh bien on cherche à ridiculiser la parole de Dieu. Il y a eu un mouvement venant d'Allemagne qui s'appelait la haute critique et qui ne s'est pas gêné pour taper sur la parole de Dieu avec un discours de celui qui détient le savoir, hein, montrer que c'était totalement ridicule de croire en ce livre. Je vous donne juste quelques exemples. Un que vous connaissez sans doute, il n'était pas question que le livre d'Ésaïe puisse avoir été écrit, combien 600 ans, c'est ça oui, tu m'as dit oui, c'est 6 siècles avant Jésus-Christ. Non, non, c'était un livre qui avait été écrit non pas par une personne, mais par trois auteurs, donc on était sûr de soi, hein, trois auteurs, et c'était non pas un livre prophétique, mais c'était un livre historique qui avait été donc écrit après la venue de Jésus-Christ. Hélas, pour la haute critique, lorsqu'on a trouvé dans les grottes de Qumran tous ces rouleaux, notamment un rouleau entier du livre d'Ésaïe, donc 7 mètres 30 et quelques, je crois, et donc immense, voilà, et que ce livre a été daté de 3 siècles avant Jésus-Christ, eh bien c'était une preuve que la haute critique disait n'importe quoi avec un enrobage de savoir. Alors, je n'ai pas les images puisqu'on ne peut pas projeter, mais si vous allez au Louvre, vous verrez, alors je vais la pierre de Moab. La pierre de Moab, c'est une stèle qui est exposée au Louvre et le roi Mécha, a fait écrire cette stèle pour raconter un conflit avec Israël. Et cela, nous le retrouvons dans 2 Rois, chapitre 3, ce récit. Et pareil, la haute critique disait que c'était impossible que ce roi n'existait pas. Et voilà, on s'appuyait sur beaucoup de choses pour prouver que ce roi n'existait pas. Et cette stèle a été découverte à la fin du 19e siècle, et elle est exposée au musée du Louvre. Et elle raconte tout ce récit, confirmant ainsi la parole de Dieu, même si pour le cœur du chrétien, de toute façon, c'est par la foi que nous appuyons sur la parole de Dieu. La ville de Ninive, c'est pareil, hein. C'était pas possible qu'une ville aussi importante ait pu exister sans qu'on trouve quoi que ce soit. Sauf que des découvertes archéologiques, alors c'était en quelle année ? En 1842, ont confirmé que oui, la ville de Ninive existait bien. Et il y a beaucoup d'attaques comme ça dont, que l'on pourrait citer et qui nous montrent que vraiment on cherche à tout prix à ridiculiser la parole de Dieu. Et encore aujourd'hui, je me rappelle de quelqu'un, bon, c'était une collègue scientifique, qui me dit « Mais non, mais c'est pas possible de croire en Dieu, c'est pas possible de croire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais c'est quand même un livre ancien, un livre, bon, c'est intéressant, d'accord, mais quand même croire que c'est la parole de Dieu. » Et puis, quelques temps plus tard, elle me dit « Tiens, mon mari, il a un zona, je cherche quelqu'un pour le porter, parce qu'il paraît que comme ça, le zona va disparaître. » Je dis « Mais comment toi, scientifique, hein, qui ne veut pas croire en la parole de Dieu, tu vas après croire à cela. » Elle dit « Oui, c'est vrai, t'as raison quand même. » Mais bon, voilà. Et je voudrais juste, si quelqu'un qui a la version second peut lire dans 2 Timothée, au chapitre 4, le verset 3.
« Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. »
Merci, Sylvia. Donc, toi, tu as la version semeur, et si quelqu'un a la version...
Non, c'est second.
Non, mais c'est Georges qui m'a dit de dire second, c'est pour ça.
C'est la semeur,
oui, juste, tu peux le dire aussi. Ouais, c'est pareil, simplement, moi, elle me fait sourire, cette version semeur. Écoutez, c'est quand même assez amusant.
Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention.
Ah, leur caresser agréablement les oreilles. Et d'autres versions sonores disent leur chatouiller agréablement les oreilles. Et quelque part, c'est ce qui se passe. Et nous vivons de plus en plus dans ce genre de mentalité. Et avec les moyens, les médias, hein, qui sont tellement puissants, eh bien, on trouve tous ces discours qui plaisent. et qui font que, eh bien, on rejette la parole de Dieu et on ne va absolument pas dire qu'elle est d'inspiration divine. Et nous avons absolument besoin de nous plonger dans la parole de Dieu, parce que un poisson mort, hein, l'autre jour, avec les jeunes, là, il y avait la rivière, là, avec ce poisson mort, là, ou en mauvaise santé, qui descendait la rivière, hein, il ne pouvait pas combattre le courant. Pour combattre le courant, il y avait des poissons à côté qui étaient en bonne santé, qui remontaient comme des fusées. Ce courant, hein, qui nous entoure, avec tous ces médias, nous cherche à nous entraîner. Mais si nous sommes en bonne santé parce que nous nous plongeons dans la révélation, eh bien nous pourrons résister. Si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons jamais résister. Et je vous ai peut-être mis, voilà, le psaume. Lisez, relisez le psaume 119. C'est vrai qu'il est, il est long. Hein. Mais quelle richesse quand on voit tous ces encouragements à vraiment nous plonger dans la parole de Dieu. Ta loi fait mes délices. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. C'est vraiment tellement important de se plonger dans la parole de Dieu. Et vous avez aussi le psaume 1, les premiers versets aussi, qui montrent cet attachement à se plonger dans la loi de l'Éternel. Celui qui se plonge dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors, j'avais aussi d'autres choses à vous dire à ce sujet-là, mais je vais sauter, et puis on va tourner la page.
Juste dire aussi, donc, Pierre il dit que les hommes veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois, ainsi qu'une terre tirée de l'eau. Bon, le passage il explique qu'ils veulent ignorer qu'il y a eu le déluge. Et en 2010, vous regarderez sur YouTube, il y a une bande de Turcs, ça s'est découvert dans les monts Arara, et vous avez les vestiges en images extraordinaires de l'Arche de Noé. Donc si on veut vraiment ignorer, on peut, mais en fait tout est montré pour qu'on...
Ce qui prouve bien que c'est vraiment un choix, la foi c'est vraiment un choix au départ, de croire ou de ne pas croire. Alors, on va passer à la deuxième partie. Donc, le canon biblique, c'est-à-dire la liste des livres que nous avons. Donc, il y en a combien ?
66.
Alors, je vous ai mis que le canon, ça vient de canne, et c'était donc un roseau qui servait à mesurer. Voilà. C'était une règle qui est devenue ensuite la règle, donc l'inspiration, et les livres, la liste des livres inspirés. Ce terme-là, canon, vous le trouverez entre autres dans Galates au chapitre 6, le verset 16, que je vous ai mis, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Règle donc canon. Donc voilà. Alors, appliquer la parole de Dieu, finalement, elle a un double sens. Règle, en tant que donc liste de livres inspirés, et puis également règle pour nos vies. Donc, elle a vraiment un double sens. Là aussi, la Bible, elle puise son autorité, non pas parce que des hommes, des collèges humains, ont décidé que tel livre était dans le canon, mais ils sont dans le canon parce que Dieu l'a décidé ainsi. Donc là aussi, c'est notre foi qui fait que nous croyons que c'est Dieu qui a permis que nous ayons la Bible avec 66 livres. Et là encore, c'est notre foi qui est en action. Jérémie chapitre 1, verset 12, « Je veille sur ma parole. » L'Éternel Dieu dit « Je veille sur ma parole. » Et nous croyons cela, et parce que nous croyons cela, nous savons que les 66 livres font vraiment partie de cette règle du canon. Donc 66 livres, 72 pour les catholiques, 73 pour les orthodoxes. C'est peut-être ce qui va un petit peu nous intéresser. Donc 66 livres, combien pour l'Ancien Testament ? On fait une interrogation. 39. Donc 66 moins 39, 27 pour le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, moins 1600 avant Jésus-Christ, jusqu'à environ moins 400 avant Jésus-Christ. Voilà donc la période pour la rédaction de l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, 27 livres, de environ 30-32 après Jésus-Christ, jusqu'à environ 100 après Jésus-Christ. L'Ancien Testament est écrit en hébreu, avec quelques courts passages en araméen, et après, le Nouveau Testament est écrit en grec. Alors, la question, pourquoi nous on a 66 livres et que les catholiques, par exemple, en ont donc 72. Pour quelles raisons ? C'est ce qui va nous intéresser peut-être, et on va passer un petit peu de temps là-dessus. Concernant le Nouveau Testament, les catholiques ou nous, c'est la même chose, avec une subtilité. Si pour eux, le canon du Nouveau Testament, c'est 27 livres, ils ont aussi à côté des livres qu'ils considèrent non pas comme canoniques, mais comme inspirés aussi. Mais ils ne sont pas inclus dans leur canon. Par contre, au niveau de l'Ancien Testament, ils ont beaucoup plus de livres que nous. Alors, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. La communauté juive est à l'origine de deux traductions, le Tanakh en hébreu et la Septante qui est en grec. Et les catholiques s'appuient donc sur la Septante dans laquelle nous avons trouvé les livres apocryphes. Alors apocryphe, ça veut dire caché. Donc nous, on les appelle les livres apocryphes et les catholiques les appellent les livres deutérocanoniques. Ça veut dire un deuxième canon. Donc déjà, ça nous donne une indication, hein, malgré tout. Il n'y a pas eu un canon, mais deux canons. Donc déjà, ça, c'est un petit peu bizarre. Donc nous, nous nous appuyons sur le Tanakh, qui est donc l'Ancien Testament, donc la Bible pour les Juifs. Pour quelle raison ? Juste, on parle un petit peu du contexte de la traduction de la Septante. Alors, Septante, 70, en fait, c'est 72. Il y avait donc 6 scribes par tribu, 12 tribus, 12 fois 6, 72. Paraît-il, elle a été traduite en 70 jours. Donc, à voir. Il faut dire les choses. Beaucoup de citations du Nouveau Testament se font à partir de la Septante. Et la liste de nos livres dans l'Ancien Testament est aussi celui de la Septante. On va dire, pourquoi on ne prend pas la Septante ? Alors, j'ai oublié un bouquin que je voulais vous lire une partie. Je l'ai oublié. Alors, mais je vais quand même essayer de vous le résumer. C'était une étude très très intéressante qui montrait qu'il y avait une majorité de textes du Nouveau Testament, une majorité de citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament qui est basée sur la Septante. Mais il y en avait aussi qui étaient transformés, qui avaient pour base la Septante, mais qui étaient transformés. Et également, un grand nombre est basé sur le texte hébreu. Et enfin, il y en a aussi beaucoup qui sont des paraphrases. Et ce frère qui faisait cette étude disait que déjà, ça nous montre que le Saint-Esprit ne s'est pas cantonné à quelque chose, mais il a pris une diversité de textes pour nous expliquer des vérités. Donc là, c'est quand même quelque chose qui était intéressant. Mais juste le contexte de la... Je reviens sur le contexte de la Septante. Alors, certains d'entre vous ici sont meilleurs que moi en histoire. Donc, le but, ce n'est pas de se plonger dans l'histoire. Si ça vous intéresse, sur Internet, vous pouvez trouver la lettre d'Aristée qui date de 2 siècles avant Jésus-Christ et qui donne plein de renseignements sur cette traduction de la Septante. Environ 280... avant Jésus-Christ. C'était Ptolémée II qui régnait alors sur tout l'Empire, le royaume helléniste. Cet homme-là, Ptolémée II, il avait donc un culte particulier, entre autres dieux, les dieux principaux, qu'il appelait les dieux sauveurs, c'était ses parents, Ptolémée Ier et Bérénice. Et il avait le projet d'unifier le culte un culte général pour que tous ceux qui étaient donc habitants de son royaume et qui avaient des religions différentes puissent accéder à un culte syncrétiste. Mais pour ce faire, ils devaient connaître les différentes religions. Et il y avait beaucoup de juifs. Il y avait énormément de juifs. Donc il a demandé aux juifs de traduire le texte hébreu en grec. Et c'est donc ça l'origine de la Septante. C'était le souverain sacrificateur Éléazar. Alors ça, on le retrouve aussi également dans le Talmud. Donc vous avez aussi des informations là-dessus. Le Talmud, qui est le livre d'études des Juifs. On peut le trouver, il y a une version française sur Internet, je fais une petite parenthèse, qui a été numérisée par Google, qui est intéressante parce qu'on a absolument tout, c'est gratuit. Par contre, si ça vous intéresse, sachez qu'il y a plus de 4000 pages. Hein. Donc voilà. Mais bon, on l'a à disposition. Et il nous donne pas mal d'informations, notamment sur cette traduction aussi de la Septante. Mais Éléazar avait deux objectifs. Un premier objectif, c'était de préserver le peuple juif de l'idolâtrie. Il fallait donc démontrer à Ptolémée II que le culte de ces dieux était incompatible avec ce que Dieu disait dans sa loi. L'idée, hein, c'était d'organiser des sortes de jeux olympiques où chacun pourrait participer avec des danses, rien de mal, hein, sauf qu'il y aurait aussi des sacrifices, donc là ça se gâte, et puis ça se terminerait par une orgie. Et bien sûr, pour les Juifs, c'était quelque chose d'inconcevable, et donc cette traduction avait aussi ce but-là, de préserver le peuple de l'idolâtrie. Mais également, il y avait environ 100 000 esclaves qui étaient prisonniers, esclaves juifs. Et Éléazar a négocié la libération de ces esclaves, entre autres avec cette traduction. Donc vous comprenez bien qu'avec ce contexte-là, il n'était pas possible de prendre de front le roi avec des textes qui montraient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, par exemple. Donc la Septante a été faite avec cette idée de ménager un petit peu la chèvre et le chou. Et c'est pour ça qu'on trouve dans cette version pas mal de glissements sémantiques qui étaient là pour ces raisons précises, à cause du contexte. J'en ai marqué, mais bon, on ne va pas s'attarder. Sachez qu'on trouve de grands défenseurs de la Septante, mais je voulais juste un petit chapitre à ce sujet-là qui se trouve sur le Talmud. Il nous est dit « Cinq anciens traduisirent la Torah en grec ». Donc la Torah, vous savez que ce sont les livres de Moïse, les cinq livres de Moïse. « Cinq anciens traduisirent la Torah en grec pour le roi Ptolémée. Ce jour fut aussi grave pour Israël que le jour du veau d'or, car la Torah ne put être traduite convenablement. » Donc on voit que pour eux, c'était quelque chose d'inconcevable. Bon, mais on va dire oui, mais bon, dès qu'il s'agissait de partager leur Dieu avec les païens, on sait que les réactions étaient tout de suite assez violentes. Mais on va s'intéresser maintenant donc au Tanakh, c'est-à-dire la Bible des Juifs, la Bible hébraïque. Alors, je vous ai marqué, elle est divisée en trois parties. La loi, donc la Torah, le livre de Moïse, les prophètes, donc vous l'avez, Nevi'im. Donc c'est il y a deux divisions, il y a deux parties. Josué juge Samuel et roi, et puis Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, les 12 petits prophètes d'Osée à Malachi. Donc ça c'est la deuxième partie. Et ensuite les écrits qui sont aussi appelés les psaumes. Pourquoi ? Parce qu'ils commencent par les psaumes. Et c'est donc tous les autres livres de notre Ancien Testament. Le livre de Daniel. Actuellement, pour le peuple hébreu, il est aussi donc dans les écrits. Il n'est pas considéré comme un prophète. Mais on sait qu'avant, il était dans les prophètes. Pourquoi ? Parce que Jésus va le citer. Il va citer, dans Matthieu chapitre 24, verset 15, il va citer Daniel comme étant un prophète. Simplement, si on prend la chronologie de Daniel, on se rend compte que le Messie devait venir pile poil lorsque Jésus est venu sur la terre. Et donc certains pensent que l'explication de ce glissement de Daniel des prophètes aux écrits est là à cause de cela. Donc voilà, alors Tanakh, le T de Torah, le N de Nevi'im et le K de Ketuvim, c'est donc l'acronyme de ces trois parties. Alors pourquoi retenir ce texte plutôt que la Septante? Je me suis mis plusieurs raisons. Je vais prendre directement les raisons principales. La principale raison. Le reste, c'était des indications. Je ne vous les cite pas, parce que le temps passe très très vite. Je vous donne juste les raisons, non pas les indications. On prend Luc, chapitre 24, verset 44. Quelqu'un là, il peut le lire.
sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies.
Voilà, la loi de Moïse, la Torah, les prophètes, donc Néviim, les psaumes, je vous ai dit que c'était les écritures, hein, puisque on l'appelait les psaumes ou les écritures, Ketuvim. Donc déjà, on voit que Jésus va citer ces trois parties que nous trouvons dans la Bible hébraïque. Ça, déjà, c'est un point qui, pour nous, est fondamental, forcément, puisqu'on a donc les paroles de Jésus pour nous confirmer cela. Ensuite, un autre point, où étaient les rouleaux qui contenaient donc les écritures du temps de Jésus ? Dans les synagogues ou dans le temple ? Dans les synagogues, on voit dans Luc chapitre 4, versets 16 à 18, Jésus va prendre le rouleau d'Ésaïe à Capernaum, si je me rappelle bien, et il va le lire. Et puis, dans le temple aussi, les écrits étaient là. Et les apôtres étaient chaque jour assidus au temple. Pour quelle raison ? Parce qu'ils lisaient la parole de Dieu qui était dans le temple. Tous les rouleaux étaient là. Et les Juifs prenaient un grand soin de mettre les meilleurs manuscrits dans le temple. Si on prend 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. C'est aussi le premier qui peut le lire.
De ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ.
Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Sauf que les saintes lettres, saint qui est utilisé ici, ce n'est pas le même terme qui est utilisé ailleurs pour parler de la sainteté de Dieu. C'est un terme qui n'est utilisé que pour concernant ceux qui touchent le temple. Et on va le retrouver, je ne l'ai pas marqué, mais on va le retrouver à un autre endroit aussi, concernant aussi ce qui est uniquement du temple. Donc, les saintes lettres, de quoi Paul parle ici à Timothée ? Eh bien, de ces rouleaux qui sont dans le temple, donc du Tanar, la Bible hébraïque. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13, vous retrouverez ce même terme qui désigne vraiment ceux qui concernent le temple. Donc là, quand Paul désigne l'écriture, il parle du Tanakh. Et puis, une autre indication que nous trouvons dans Romains, au chapitre 3 et le verset 2. Quelle est donc l'utilité, l'avantage des Juifs ? Verset 2, il est grand de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. En ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et les oracles de Dieu, c'est vraiment la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu a été confiée aux Juifs. Et les Juifs, quelle traduction ont-ils ? La Bible hébraïque, le Tanakh. Donc il est tout à fait normal que nous nous basions sur ce livre et non pas sur la Septante. Et donc voilà, ce sont quand même des points importants qui nous conforte dans ce choix, et bien sûr avec toujours, qui chapeaute tout, notre foi, sachant que c'est Dieu qui veille sur sa parole. Voilà, ça c'était pour l'Ancien Testament. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez des réflexions à ce sujet ? Je l'ai condensé, et je vais encore plus condenser le Nouveau Testament. Alors là, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on a... il n'y a pas de livre apocryphe dans la traduction catholique, par exemple. On a les mêmes listes. Environ 4000 manuscrits. Nos traductions s'appuient sur environ 4000 manuscrits. C'est beaucoup, beaucoup plus que tout ce que nous trouvons ailleurs, et pourtant que nous croyons, s'agissant de l'histoire de Jules César, etc. Il y a bien moins de manuscrits. Là, c'est énorme. C'est vraiment quelque chose qui est énorme. Et on voit que donc ce sont des écrits, soit des apôtres, des 12, d'accord, Paul qui va dire « mais ne suis-je pas apôtre ?» Des proches du Seigneur, comme Jacques, son frère, ou Jude, et aussi Luc, qui était un témoin direct, qui était aussi, qui a fréquenté également les apôtres. Donc vraiment, des témoins et les apôtres qui sont les envoyés par le Seigneur. Lorsque le Seigneur leur a dit « allez, faites des nations des disciples, les enseignants, prescrivez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. » Et donc ce sont eux les premiers qui ont eu cette mission d'apporter la parole de Dieu. On a quand même des indications qui sont claires. On se rend compte que déjà environ 100 ans après la mort de Jésus, il y avait déjà une unité dans les livres que nous avons ici pour nous. Les premiers chrétiens recopiaient, écrivaient à la main, sur des codex. Les codex, vous voyez, il y a les rouleaux. Les rouleaux, le rouleau d'Ésaïe, il fait 7 mètres 30 et quelques, donc c'est pas pratique. Et les codex, ils écrivaient donc sur des parchemins qu'ils reliaient les uns aux autres. Et ça faisait donc des petits livres, des petites bibliothèques. Bon. Il existe plusieurs codex. Si ça vous intéresse, ils ont des numérotations, P quelque chose. Alors P4, P64, P67 concernent par exemple les codex qui contiennent les évangiles dans l'ordre que nous les avons aujourd'hui. Donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, dans le même ordre. Il existe d'autres codex qui contiennent les épîtres de Paul, notamment un qui date de 170 environ après Jésus-Christ, donc très 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 ancien. Et on a des codex complets du Nouveau Testament, dans l'ordre des livres que nous avons là, ici, le même ordre qui était utilisé. Alors quelqu'un va dire, oui, mais il y a des codex qui contiennent les livres apocryphes. Ok. Alors le plus connu, c'est le codex Sinaiticus, qui date, je crois, de 4 siècles après Jésus-Christ, qui a une particularité que l'on retrouve dans tous les codex qui contiennent des livres apocryphes. Quelle est cette particularité? Alors les livres apocryphes pour le Nouveau Testament, il y en a à l'appel. Il y en a vraiment cette immense. Il y a plusieurs évangiles en plus des quatre, plusieurs actes, plusieurs lettres, plusieurs apocalypses, etc. Mais ce que l'on retrouve dans ce codex Sinaiticus et dans les autres, c'est qu'on a notre canon dans l'ordre, et ensuite ces évangiles, ces actes, ces épîtres, etc. sont à la suite. Donc après l'apocalypse, à la suite on trouve des évangiles, etc. Alors pour quelle raison? Si c'était inspiré, pour quelle raison ça ne serait pas les évangiles avec les évangiles, les actes avec les actes, etc. Mais il n'y a qu'une seule réponse, c'est qu'ils ne sont pas inspirés, ils ne sont pas dans le codex. Et de toute façon, ils sont beaucoup plus postérieurs, beaucoup plus récents, merci, que ceux que nous avons dans notre Bible. Donc on se rend compte que, voilà, franchement, et après, si vous les prenez, et je vais vraiment terminer là-dessus, mais c'est vraiment intéressant, hein, mais... Juste, je vous cite l'évangile de Thomas. Vous allez voir l'écart qu'il y a entre l'enseignement de ces livres apocryphes et l'enseignement de la parole de Dieu. D'abord, certains, c'est par exemple l'enfance de Jésus de Thomas, où il y a, on parle de l'enfance de Jésus, mais il n'y a pas de réalité doctrinale. Et puis il y a des choses extraordinaires. Dans ce livre, l'enfance de Jésus de Thomas, il est question de Jésus qui va fabriquer des oiseaux en argile et qui après va souffler dessus et puis s'envole, il devient vivant. Ça a été repris d'ailleurs dans le Coran. Il y a aussi Jésus qui va apprendre petit à petit à faire du bien et à guérir et à utiliser ses pouvoirs pour guérir et non pas pour détruire parce qu'à un moment il s'est énervé contre deux enfants et puis il les a tués. Donc, regardez, l'image de Jésus qui n'a aucun rapport avec le Jésus des évangiles. Et pour revenir à Thomas, alors, mesdames, désolé, mais je ne fais que lire. Simon Pierre dit, il va dire aux apôtres, que Mariam sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Et Jésus répond, voici, moi je vais la guider afin de la faire mal, en sorte qu'elle devienne elle aussi un esprit vivant semblable à vous les mâles. Car toute femme qui se fera mal entrera dans le royaume des cieux. Vous voyez, une misogynie totale, mais qui n'a rien à voir avec l'enseignement, la doctrine des évangiles. Et voilà donc ce que certains vont mettre en avant. Mais non, l'enfant de Dieu est certain. Et nous savons que oui, Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Et nous nous appuyons avec totale confiance sur la parole de Dieu. Parce que nous savons qu'elle est véritable. Et je vous laisse avec Ésaïe, chapitre 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et c'est une réalité que nous voulons faire nôtre et vraiment nous appuyer dessus. Alors voilà, j'ai essayé de faire un condensé du condensé que je vous avais fait. Mais bon, les choses sont comme elles sont. Et puis, Voilà, vous avez quelques versets, et puis si jamais après vous voulez avoir des renseignements, notamment sur les codex ou autres, et que si je peux vous les donner, ce sera avec plaisir. On va conclure là, si, je ne sais pas si quelqu'un veut prier pour terminer.
Que tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui veut nous enseigner. Et tu nous dis que ta parole est la vérité. Si c'est vrai, Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui ment. Et nous voulons faire notre, effectivement, ta parole dans nos cœurs. Merci encore de ce que nous pouvons apprendre de toi, à savoir que tu as le meilleur pour chacun de nous et tu veux encore sauver aujourd'hui. Et Seigneur, que nous puissions vraiment être des porte-paroles justement de cette vérité, comme les premiers disciples qui sont partis pour pouvoir faire d'autres disciples et de les enseigner. Que nous puissions, Seigneur, vraiment être des flambeaux, afin de pouvoir, Seigneur, apporter ta parole qui est l'esprit, ton esprit. Et c'est ta parole, Seigneur, qui nous convainc, qui nous dirige, qui nous conduit. Et bien, Seigneur, que nous sachions vraiment reconnaître dans nos cœurs que tu es ce Dieu merveilleux qui veut encore aujourd'hui nous instruire. Nous te prions pour chacun de nous ici présents que nous puissions vraiment faire de ta parole notre vie quotidienne. Donne-nous vraiment de regarder à toi. Et c'est vrai que ce passage qui nous déclare que ta parole, toute écriture est inspirée par toi-même et elle est là, Seigneur, justement pour nous diriger. Tu nous as donné, Seigneur, aussi le Saint-Esprit, le Consolateur. Nous ne sommes pas seuls, Seigneur. Et nous voulons toujours regarder vers toi. Nous voulons marcher sur ce chemin de vérité. Merci encore de ces moments que nous pouvons partager autour de ta parole, qui nous encourage à regarder à toi, le vrai Dieu. Merci de nous accompagner maintenant et que nous puissions effectivement ne pas être des hommes et des femmes qui oublient ce que toi tu es. Parce que tu es le Dieu éternel et tu vis jour après jour et tu veux habiter en nous, que nous puissions être, Seigneur, ces flambeaux qui éclairent, qui illuminent notre prochain. Et nous voulons, Seigneur, te prier pour notre Église, que vraiment nous puissions être justement ces flambeaux, nous puissions être un modèle, mais de marcher, Seigneur, pas comme le monde veut, mais de marcher comme toi tu veux. Merci de nous enseigner encore par ta parole. Et nous voulons te dire merci. Tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.